Bonjour à tous. Donc, pour ce commentaire lié à l'épreuve 10 du DCG 2019, donc un sujet, je dirais, qui sans surprise se compose de 4 dossiers. On est habitué là maintenant depuis quelques années, effectivement, on a ce nombre de dossiers. 4 dossiers qui n'étaient pas de taille identique, puisqu'on a un dossier prépondérant qui est le dossier numéro 1. Dossier numéro 1 sur 7 points. Ensuite, 2 dossiers qui étaient de taille similaire, 5 points et demi, puis 5 points. Et enfin, un dernier dossier plus théorique, portant sur 2 points et demi. Donc, on avait ici un gros dossier, le dossier numéro 1, qui prenait finalement un tiers du nombre de points, donc également un tiers du temps de travail à réaliser votre épreuve. En ce qui concerne les sujets, donc des sujets sans surprise non plus, hein. On le voit maintenant depuis plusieurs années, tout ce qui est lié à la variation de capital, affectation de résultats, constitution de société ou augmentation de capital, on a tendance à le retrouver. C'est une thématique récurrente. C'est ce qui faisait ici notre dossier numéro 1 d'augmentation de capital. Un dossier numéro 2 sur les immobilisations, très classique également, nous y avons droit chaque année. Un dossier numéro 3, cette fois-ci sur le contrat à long terme. Donc c'est toujours un petit peu le dossier surprise, on va dire, le dossier numéro 3. Donc contrat à long terme, bah, écoutez, ça reflète aussi la réalité des choses. Donc ici, on est sur des dossiers proches du terrain, contrat à long terme, chose réellement vécue dans le cadre des entreprises, notamment souvent dans le BTP. Et enfin, dossier numéro 4 qui s'intéressait ici à la profession comptable et à la déontologie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu en fait un dossier réellement dédié à cette thématique-là, puisque ces dernières années, on était plutôt sur des questions qui étaient un petit peu parachutées de-ci de-là dans les différents dossiers. Là, il y a eu un dossier spécifique à la profession, ce dossier qui était donc sur 2,5 points au travers de 3 questions. Pour décortiquer un petit peu ce sujet, donc qui n'était pas sans difficulté particulière. Il y avait des, entre guillemets, des petits pièges ou des petits éléments auxquels il fallait faire attention. Le dossier numéro 1 en 2 parties, donc dossier le plus conséquent, dossier sur l'augmentation de capital, donc très classique, hein, il n'y avait pas vraiment de difficultés de ce côté-là, des calculs qui étaient très simples également à réaliser, puisque je le rappelle, c'est une épreuve sans calculatrice. Donc le dossier numéro 1, la partie 1, s'intéressait plutôt aux éléments d'augmentation de capital, aux écritures comptables liées à cela. Vous aviez la petite difficulté, entre guillemets, hein, qui était le versement anticipé. Pour le reste, on vous demandait de passer les écritures simplement de l'appel, hein, des 25%, puisque c'était 25%, on était sur un appel partiel, et on ne vous demandait pas tout ce qui pouvait être lié au solde qui avait lieu en mars 2019, donc on était sur des écritures relativement abordables. Et puis la deuxième partie, ce qu'on retrouve généralement dans le cadre d'une augmentation de capital, c'était de traiter la partie droit préférentiel de souscription. On le traitait ici de 2 points de vue, du point de vue d'un ancien actionnaire et du point de vue d'un nouvel actionnaire, en imaginant la valeur que cela représentait pour chacun, la somme déboursée en tout cas. Et puis pour une des sociétés qui faisait l'acquisition, hein, de cette, enfin, qui participait à cette augmentation de capital, enregistrait l'acquisition de ces actions nouvelles. Ici, qu'il fallait justifier donc le lien avec les immobilisations financières comme étant des titres de participation, puisqu'on avait ici plus de 10% de détention du capital, hein, calcul non attendu, simplement de poser le nombre d'actions détenues sur le nombre d'actions totales, ça permettait de justifier cela. Donc pas de grosses difficultés de ce côté-là. Les coûts d'acquisition, droits préférentiels de souscription, etc., vous étiez tous demandés pour une action, donc on avait des calculs très simples. Dans le dossier numéro 2, on était sur une immobilisation corporelle. Ici, on faisait l'acquisition d'une machine couleuse empaqueteuse. On traitait comme petite point de difficulté l'incorporation des coûts d'emprunt dont la valeur vous était donnée, donc pas de calcul à réaliser. On vous demandait donc de procéder à l'enregistrement comptable de cette immobilisation. Ce qui pouvait être difficile, il est vrai, c'est ce calcul de tête lié à la TVA, hein, puisqu'il fallait retirer la valeur des coûts d'emprunt, puisque les coûts d'emprunt ne supportent pas de TVA. Donc on avait ici un montant d'immobilisation hors coûts d'emprunt qui était pas vraiment rond, donc un peu plus difficile pour effectuer votre calcul de TVA, ce qui a pu des fois perturber certains. Et puis on vous demandait ensuite, dans les petits cas, peut-être un peu de difficulté, d'évoquer d'évoquer le changement que cela procurerait si les tests avaient été réalisés en interne. Pour le coup, on aurait une neutralisation avec un compte 722. Et puis, toujours pareil, ces frais-là ne supporteraient pas de TVA, donc un recalcul de la TVA avec cette petite difficulté d'un chiffre pas forcément tout à fait facile à manipuler. Voilà. Et puis une modification donc du plan comptable de manière prospective, hein, modification de la base amortissable qui était à justifier, mais pas d'écriture comptable à passer. Donc des petits points de particularité étaient traités au travers de ce dossier, mais sans difficulté majeure, je dirais. Ensuite, le dossier numéro 3 est un dossier qui portait sur le contrat à long terme. Hein, donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cette thématique-là, donc contrat à long terme avec la modification de méthode. Donc, on avait un contrat à long terme initialement à l'achèvement et on basculera sur un contrat à l'avancement. Contrat à l'achèvement, donc, qui vous était demandé d'expliquer un petit peu ces deux types de contrats qui existaient, d'expliquer pourquoi l'entreprise avait choisi de changer de méthode, quel était le principe comptable remis en cause, etc. On est sur la partie un petit peu théorique des éléments. Au niveau des écritures comptables, on vous demandait de justifier l'écriture comptable de l'année précédente avec la méthode à l'achèvement, donc un an en cours de production. Et puis, on vous demandait également de comptabiliser le changement de méthode comptable. Donc, basculant à l'avancement, il nous faut donc calculer l'impact du résultat sur les années précédentes, un impact qui aurait dû exister. Attention, c'est un impact qui était calculé en net, c'est-à-dire hors impôt. Et puis, bien ensuite, comptabiliser la partie impôt sur les sociétés relative à cet impact. Donc on avait un impact sur les capitaux propres, par défaut que l'on placera en report à nouveau, positif, puisqu'on est sur un contrat bénéficiaire, et puis un impact sur l'imposition. Donc ça, c'était la difficulté de cet élément-là, puisque ce n'était pas en soi de traiter les écritures liées à l'achèvement ou à l'avancement, mais c'était de traiter le changement de méthode comptable au travers de ce contrat à long terme, ce qui pouvait présenter effectivement une petite difficulté quant à l'analyse des éléments et aux opérations apportées en report à nouveau et en imposition. Voilà. Et puis une petite question également théorique hein, qui vous poussait à réfléchir sur l'impact sur les documents annuels. Donc quand on vous parle des documents annuels, évidemment bilan, compte de résultat ainsi que l'annexe. Donc quels étaient les éléments modifiés ou impactés suite à ce changement de méthode comptable. Donc c'est vrai qu'on voit la disparition du stock, on voit l'apparition d'une facture à établir pour les éléments de bilan. Et puis on voit dans le compte de résultat qu'il n'y aura aucun impact et en annexe, bien sûr, cette obligation de mentionner le changement de méthode appliqué. La notion de méthode préférentielle, vous le savez, a disparu courant 2018. Ça n'était pas attendu hein, que vous fassiez référence à ces notions qui s'appellent désormais méthode de référence. On n'attendait pas cela de votre part puisque c'est un changement courant 2018. Vous êtes sur une session 2019, mais un sujet créé en 2018 et donc des cours valables sur l'année 2018. Donc, on ne tiendra pas compte du fait que vous n'ayez pas forcément fait référence à ces éléments-là. Quant au dossier numéro 4, donc un dossier qui traitait, lui, de la profession comptable et de la déontologie, au travers de quelques petites questions comptables. Cette fois-ci, il n'y avait pas de commissaire aux comptes, comme on a souvent l'habitude de le voir, mais on était sur simplement l'expert comptable, s'il pouvait accepter une mission. Donc c'est une question récurrente. Si c'est pas l'expert comptable, c'est le commissaire aux comptes. On cherche souvent à savoir si il est en mesure ou pas d'accepter la mission. L'objectif étant de faire apparaître les notions de conflit d'intérêt ou d'incompatibilité, ce qui était le cas ici. Ensuite, on avait une question sur les honoraires qui sont tout à fait libres hein, dans le cadre de l'expertise comptable. Ça ne l'aurait pas été dans le cadre du commissariat aux comptes. Alors, les honoraires sont libres, mais le barème horaire est lui fixé par la compagnie. Et puis enfin, une petite question un peu plus récente hein, maintenant par rapport aux derniers éléments qui ont pu être produits hein, dans le cadre de la profession, ce sont des éléments quant à la publicité. Donc désormais, la publicité est tout à fait possible dans le domaine de la profession comptable. À partir du moment où c'est pour présenter le cabinet, ses actions, ses missions, sans dénigrer les confrères, sans dénigrer le métier, sans porter atteinte non plus à la profession. Donc ici, oui, l'entreprise, le cabinet Jura, pouvait effectivement lancer un spot publicitaire. Toutefois, son slogan n'allait pas. Donc là, la réponse, et ce qui peut créer la petite difficulté, était à nuancer. Oui pour le spot publicitaire, non pour le slogan, puisque le slogan qui terminait sa phrase en disant « le cabinet peut en faire beaucoup plus que tous les autres cabinets » signifie donc qu'on est plus efficace, plus performant que les autres cabinets. On laisse donc sous-entendre qu'on est en train de dénigrer les autres cabinets, voire certains membres de la profession. Donc, chose qui est inacceptable. Donc ça veut dire que le slogan ici était à revoir. Donc en fait, on attendait de votre part que vous soyez en mesure de nuancer votre réponse. Oui pour le spot, non pour la partie slogan qui ne convenait pas. Voilà, donc un sujet tout à fait, je qualifierais d'habituel, qui n'a pas présenté de grosses difficultés, des petits points, hein, évidemment, hein, on est quand même sur un cadre DCG-UE10, des petits points spécifiques à traiter en complémentarité dans chacun des dossiers, mais un sujet tout à fait abordable, et puis un nombre d'annexes cette fois-ci qui était relativement limité, hein, puisqu'on avait 4 annexes, les informations toutes fournies étaient toute utile, donc pas de très très grosses difficultés. Un sujet qui, je dirais, comme à l'image de ces dernières années, était tout à fait abordable, tout en présentant quelques petits points de difficulté qui permettaient à certains de démontrer, voilà, tout à fait leur connaissance et leur parfaite maîtrise de cette unité. En espérant donc que pour vous ce soit un sujet qui a été relativement concluant. Et puis bah, écoutez, si vous avez des questions, des retours, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi, le corriger étant mis en ligne très rapidement, puisque cela va être bientôt effectué. Voilà, bah, écoutez, bon courage !